J'aimerais parler avec vous de quelque chose de très concret, puisque je crois que l'Évangile, c'est quelque chose de concret. Beaucoup de personnes lisent la Bible et ont l'impression de lire un livre d'une autre époque. Et à bien y réfléchir, à bien y regarder, nous remarquons que c'est quelque chose, un livre d'actualité. Il n'y a pas livre plus actuel que la parole de Dieu, la Bible. Et je vous invite à l'ouvrir dans, premièrement, l'Épître aux Galates, chapitre 5 et verset 6. Galates 5, 6, une première lecture. En Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Je le relis au cas où vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave. En Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Ce texte nous dit que ce qui a de la valeur, c'est pas les œuvres de la chair, c'est pas ce qu'on pourrait faire nous-mêmes, c'est surtout la foi qui, elle, agit par amour. Deuxième texte, livre des Proverbes, chapitre 3 et verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. La sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. Et maintenant dans Proverbes chapitre 31 verset 10, un dernier texte pour l'introduction. Proverbes 31 verset 10, je vous fais tourner les pages, usez votre Bible. Et si vous n'en avez pas, il y en a à disposition à la sortie, ne partez pas sans Bible. Je suis sûr qu'il y en a qui vont être d'accord. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Qui est d'accord? Je sais pas, vous n'aviez pas l'air d'un convaincu là. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que toutes les perles, que les perles. Et il est écrit ailleurs, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà. Je sais qu'il y en a qui veulent se marier, ne perdez pas espoir. Aimez le Seigneur et vous serez de valeur aussi. Il y a deux semaines, on a partagé sur un thème, j'avais donné un titre, j'avais dit « Ah, si j'étais riche ». Vous vous en souvenez ?« Ah, si j'étais riche ». On avait vu qu'on était tous riches en vrai. Dans notre pays, pour la plupart, quasiment tous, on peut dire « on est tous riches ». On avait vu deux choses, donc, si nous sommes riches, la première chose que Dieu nous demande, c'est d'être reconnaissant, de dire merci. Et la deuxième chose que nous avions vue, c'est d'être généreux. Nous-mêmes, puisque nous sommes riches, ne pas tout garder pour soi, ne pas être égoïste, mais pouvoir être généreux, prendre soin de ceux qui ont moins que nous avec l'abondance que nous avons. Ce matin, je voudrais qu'on parle de ce point commun aux trois textes, un mot. Qui a découvert le mot qui était commun aux trois textes? Le mot valeur, exactement. C'est le mot valeur. J'aimerais qu'on parle de la valeur des choses. Qu'est-ce que vous en pensez? La valeur des choses. Comment peut-on connaître la valeur de quelque chose? Premièrement, on peut estimer quelque chose, un objet, quelque chose, par sa valeur brute, c'est-à-dire ce de quoi elle est faite. Si je prends un meuble, je peux dire, voilà, la valeur de ce meuble, c'est eh bien, le bois qui est utilisé, et si un expert venait, si quelqu'un, en tout cas un menuisier venait, il dit, voilà, une planche de tant de centimètres, tant de mètres, etc., sur tant de centimètres, etc., tatata, il fait le calcul, et il arrive à un beau bureau, il dit, voilà, il y en a pour 50 euros. Il y en a pour 30 euros, il y en a pour tant, voilà, je sais pas. Vous comprenez? Il y a la valeur brute. Mais après, il y a la valeur estimée par un expert, quelqu'un qui non seulement va regarder ce que ça vaut en valeur brute, mais qui va regarder qui l'a fait. Qui va regarder en quelle époque ça a été fait, parce qu'un meuble de Louis XIV, comme on dit, je sais pas, hein, moi je pourrais pas vous dire quelle forme il a, il y a des experts là-dedans, mais un meuble très très ancien, etc., même si le bois en soi vaut peu, eh bien il peut valoir très très cher. Pourquoi? Parce qu'à dire d'experts, il vaut plus à cause de ce qu'il a vécu, à cause de qui l'a fait, alors à cause de quand il a été fait et de la manière dont il a été conservé. Et la troisième manière dont on peut évaluer quelque chose, avec laquelle on peut évaluer quelque chose, sa valeur, c'est aussi le regard qu'on lui porte, le regard qu'on porte sur cette chose. Un bureau peut être archi moche, si jamais c'est le bureau de mon arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père à moi, même s'il n'est pas en très bon état, il a une certaine valeur pour moi, pas forcément pour d'autres, parce que c'est le bureau ou le meuble de quelqu'un que j'ai connu, ça me rappelle certains souvenirs, etc. Et là, je ne parle pas de superstition, il ne faut surtout pas donner un objet, quand je parle de valeur, hein, c'est un pouvoir magique, celui qui a tout pouvoir, c'est Jésus-Christ. Les objets, les meubles, le bois, je touche du bois, c'est horrible, c'est en horreur aux yeux de Dieu, je ne parle pas du tout de ça. Non, lui, il veut qu'on lui fasse confiance et il est assez grand pour prendre soin de nous. Trois choses, donc deux valeurs fixes, la valeur brute, la valeur à dire d'expert, c'est fixe, tout le monde doit être d'accord puisque c'est un expert ou c'est quelque chose de concret. Mais aussi la valeur, mais après la valeur du regard que je lui porte, ça par contre, ça peut varier. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai emmené, j'ai dû le planquer pour le piquer. Qui sait ce que c'est? Qui sait ce que... Oui, vous savez, hein, c'est quoi? On appelle ça un doudou. C'est le doudou de mon fils. Ce doudou, valeur brute, un peu de tissu, un peu de mousse. Vous voyez, non, il n'y a rien d'autre, je crois pas. Un peu de fil à coudre, voilà. Valeur brute en soi, qu'est-ce que ça vaut? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose, je ne sais pas combien ça a coûté. Valeur à dire d'expert, est-ce qu'il y a un expert en doudou, ici? À dire d'expert, j'en sais rien. Il peut dire, ah oui, mais c'est un doudou qui porte la marque Intel, donc ça lui donne un prix. Vous avez vu que la marque de quelque chose accorde une valeur. Avons-nous la marque de Jésus, la marque du Saint-Esprit sur nos vies? Ça nous donne de la valeur. Bon, je passe. Et puis, il y a la valeur sentimentale. Le regard que je lui porte. Même si je le voyais dans 40 ans, ce doudou, pour moi, il aurait la valeur. Pourquoi? Parce que c'est le doudou de mon fils. Vous avez compris? Il y a trois manières d'évaluer quelque chose. Trois manières. Et on va parler de plusieurs choses qui peuvent avoir une valeur. La première chose, la valeur d'un objet. Je viens de donner un exemple concret. Quelle valeur a pour vous vos cheveux? Il est fou, Jérémy. Qu'est-ce que ça a comme valeur pour vous? Dernièrement, un homme a fait assurer ses cheveux pour $1 million. Pourquoi? Parce qu'il est footballeur et il risque gros avec ses cheveux. Il risque de se les faire tirer. D'ailleurs, des gens s'en sont pris à ses cheveux. Pourquoi? Mais parce que c'est devenu la mascotte de l'équipe, ses cheveux. On est dans un monde fou, je vous l'accorde. $1 million pour assurer des cheveux. Ça serait mes cheveux. Je ne sais pas ce que vous en donnerez. Ça a une valeur brute? On en fait des perruques, etc. C'est une valeur brute. À dire d'expert, je ne sais pas. Je ne suis pas allé chez le coiffeur aujourd'hui. Mais il y a une valeur peut-être qu'on lui accorde à cause du regard des gens. Un homme, 1 million. Un violon Stradivarius Lady Blunt. 15,9 millions de dollars. Pour quelqu'un qui a froid, la valeur brute, c'est un peu de bois pour chauffer un violon. Ça ne vaut pas grand-chose. À dire d'experts, ce violon est évalué, je ne sais plus combien de millions aussi. Mais quelqu'un a été prêt à payer 15,9 millions pour acheter un violon. Certes, c'est un violon fait par M. Varia. Et ça a une grande, grande valeur. Mais moi, je ne serais pas prêt à mettre 15,9 millions déjà parce que je ne les ai pas. Une guitare, la guitare la plus chère du monde. 2,7 millions de dollars, pareil. Alors il faut dire aussi que quelqu'un a payé ce prix-là parce que c'était une guitare signée par des grands chanteurs et musiciens du monde entier et qui a été vendue en faveur des personnes qui ont vécu le tsunami. Donc je pense que ça a poussé un peu le prix, mais vous avez vu, du coup la guitare, on pose un autre regard parce que c'était fait pour une bonne cause. Alors quelqu'un a osé mettre 2,7 millions de dollars. Juste parce qu'il y avait les signatures de quelques personnes célèbres et juste parce que la cause était bonne. Dans la parole de Dieu, les objets aussi peuvent avoir une certaine valeur. Vous vous souvenez de l'affaire du fer de hache qui tombe dans l'eau? Vous vous souvenez? Ce serviteur, ce fils de prophète qui taille des poutres, chacun taillait une poutre pour faire une maison. Comme ça, il voulait être avec Élisée. Et puis, alors, il tape, il taille comme ça. Et puis, d'un coup, le fer de la hache tombe dans l'eau. C'est qu'un fer de hache. Il y en a peut-être d'autres. Mais le problème de la personne, pourquoi ce fer avait une valeur particulière? C'est parce que ce fer était prêté. On lui avait prêté. Et quand on vous prête quelque chose, j'espère que vous en prenez soin. Si je vous confie ma voiture pour bien dépanner quelque chose et que je vous demande de la rendre, je suis sûr que vous allez en prendre soin, etc. Parce qu'on vous la prête. Ça a une valeur supérieure, pourquoi? Eh bien parce que c'est pas moi, ça m'est prêté. Dans la parole de Dieu, il est dit aussi qu'il y a une femme, une jeune femme, qui avait perdu une drachme. C'est une parabole. Jésus qui la donne. Vous vous souvenez de cette affaire? C'est dans Luc, l'évangile de Luc. Et il a cherché, elle a cherché, pardon, cette femme cherche, elle cherche partout, il fait sombre dans la maison, elle allume la lumière, elle balaye et tout, etc., pour trouver la drachme perdue. En soi, vous allez dire, mais elle en avait 9 autres sur les 10. Mais le fait est que ces 10 drachmes étaient nécessaires pour son mariage. Puisqu'autrefois, on se faisait une parure, certains disent une couronne, une parure, avec des pièces, comme ça se fait encore dans certains pays, des pièces d'or, des pièces d'argent, et c'est la dot pour le mariage. C'est ce avec quoi la femme part pour commencer la vie. Cette femme, elle en avait 9, et c'était une honte, puisqu'il en fallait 10. Et cette drachme, particulièrement, avait une valeur supérieure, parce que ça importait même sur son mariage. Et on comprend le fait qu'elle se soit appliquée à chercher. Et quand elle l'a trouvée, elle a même fait une fête. Pourtant, ça coûte quelque chose de faire une fête, d'inviter des amis, de payer à manger. Mais oui, mais cette drachme était retrouvée. Celle qui aurait pu l'empêcher, eh bien, de se marier dignement. La croix. Tiens, la croix. Je parle de la croix, le bois, qui, il y a 2000 ans, a porté Jésus-Christ. Quelle valeur a-t-elle? Valeur brute? Ce n'est que quelques poutres, deux poutres, un patibulum, une autre poutre, que Jésus a portée. À valeur brute, ça ne vaut pas grand-chose. Ça vaut quelques centaines d'euros, peut-être un bois aussi gros, aussi, je ne sais pas. À valeur à dire d'expert, aujourd'hui, ça vaudrait des millions, parce qu'un expert dirait « Oh, c'est la croix de Jésus ». Et vu la renommée de Jésus dans le monde entier, qui n'a pas entendu parler de Jésus? Ils sont rares, ces personnes. Et je suis sûr qu'il y a des personnes, et d'ailleurs, ça s'est fait dans le passé, dans les religions, qui seraient prêts à acheter la croix de Jésus-Christ. C'est pas vrai? Vous avez entendu parler qu'à un certain moment, on disait « C'est un clou de la croix de Jésus, un clou que Jésus a pris ». Bizarrement, il y en avait des centaines de milliers, hein? C'est vrai. Et certaines religions disaient, voilà, si t'achètes ça, c'est un porte-bonheur. J'ai dit tout à l'heure, aucun objet, même le bois qui a supporté Jésus, n'a une valeur en soi, un pouvoir magique. On n'est pas près de Dieu, parce qu'on a acheté la vraie croix de Jésus, à ce qui paraît. Le vrai tombeau, certains le touchent. Oh, je suis béni, tout ça. Non, c'est vrai que c'est émouvant. Je comprends qu'on peut être touché du fait de voir les lieux où Jésus est passé. Mais il ne faut pas que ça dépasse quelque chose de simple. Il ne faut pas y attribuer un pouvoir à toutes ces choses. Et le tombeau, c'est bien, mais il est vide. Jésus est ressuscité. Mais la croix, quelle valeur a-t-elle? Pour moi, et je ne parle pas du bois là, je parle de ce qu'elle représente, la valeur de la croix, ce que Jésus a fait sur la croix. Est-ce que je suis toujours touché par ce que Jésus a fait sur le bois de la croix? Et je n'ai pas besoin d'acheter un bout de la vraie croix, ça ne servira à rien. Moi, ce que je veux, c'est que la croix soit plantée dans mon cœur, comme une bannière. Oui, elle est vide, la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Il n'est même plus au pied de la croix. Je ne veux pas aller simplement au pied de la croix. Quand je vais au pied de la croix, c'est pour réaliser que Jésus est mort pour moi, mais je le rejoins après au trône de la grâce, pour recevoir la grâce de Dieu. Je n'accorde pas un pouvoir superstitieux ou magique à une croix en fer, une croix en or, une croix en tout ce que vous voulez. La vraie croix, c'est celle, c'est l'œuvre en fait de Jésus, c'est une œuvre. Et quelle valeur je donne à cette croix? Deuxièmement, la valeur d'une propriété. La maison la plus chère du monde, devinez à combien elle est. Qui a osé mettre autant dans une maison? La valeur la plus chère du monde, la maison la plus chère du monde. Plus d'un milliard d'euros. C'est quand même sympa, hein? 27 étages. Je ne sais pas comment il fait pour y être en même temps. Déjà qu'on a du mal quand on a 10 pièces. Alors 27 étages. 1 milliard. La deuxième est à Villefranche-sur-Mer en France. 525 millions avec 50 jardiniers pour les 8 hectares de jardin. Dans la parole, il est parlé de quelqu'un qui donnait de l'importance à une propriété. 2 Samuel 23:11. Après lui, Shama, fils d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Et qu'a fait cet homme? Shama, il s'est mis devant l'armée des Philistins et il a dit « Mes lentilles, vous y toucherez pas ». Il s'est mis comme ça et il a défendu. Et c'est un des héros qui vivait près de David. Il était là, cet homme, il a dit « Mes lentilles, le terrain qui nous appartient, vous le prendrez pas ». Et il a défendu son terrain et il a remporté une bataille contre toute une armée. Et c'est là un des héros de David. Dans la Bible, il y a des histoires, il y a des récits comme cela. Mais la question que je nous pose à nous ce matin, c'est quelle valeur attribuons-nous à la propriété qui nous attend dans le ciel? On en a parlé, c'était dans mes notes. Savez-vous que dans le ciel, il y a une place qui est réservée à ceux qui lui appartiennent? Non. D'accord. Vous savez, est-ce que vous êtes sûr que Jésus vous prépare une place dans le ciel? Sûr, il faut en être sûr. C'est important. Il est dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jean 14, 2. Croyez-vous que c'est une tente placée dans un terrain abandonné ou un désert? Pas du tout. Regardez ce qu'il est dit. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Un peu plus loin, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Et encore un peu après, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Ça vous intéresse de voir un peu à quoi ça ressemble et de voir où est-ce que Dieu vous a placé, où est-ce que Jésus vous a dit, voilà, ça c'est ta place à toi, c'est réservé. Une place pavée d'or pur, au point tellement pur que c'est transparent, avec du cristal, des pierres précieuses, et on n'en aura même pas besoin. On n'aura pas à les piquer, parce qu'on sera endetté. Il n'y aura plus de dettes, plus de factures, plus rien. Et même, plus besoin d'électricité, puisque Dieu sera notre lumière. Plus écologique, de l'air plus pur que là-haut, il n'y en a pas. Et là-haut, on ne peut pas faire mieux. Il n'y a pas mieux que là-haut. Et ça, c'est pour nous. Et ça nous rappelle à quel point on est riche. Quelle valeur a cette propriété qui vous attend dans votre cœur? Moi, ça a de la valeur dans mon cœur. La valeur d'un mot. La valeur d'un mot. Allez, 3 mots. 7 lettres et une ponctuation. Je t'aime. Quelle valeur ça a pour vous? Quand votre fiancé, votre femme, votre épouse, votre futur, votre époux, vous a dit pour la première fois « je t'aime », est-ce que vous en souvenez? Tiens. Est-ce que vous vous souvenez de ces mots « je t'aime » ou alors d'un père, d'une mère, un père qui dit « tu es mon fils ». Peut-être des personnes n'ont pas eu cette chance d'entendre leur père dire « tu es mon fils ». Ou à leur fille, leur mère, pareil, dire « tu es mon fils » ou « ma fille ». C'est des choses de valeur. Un mot, quelle valeur ça a? À dire d'expert, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Inestimable, tout ça, on ne peut pas. On ne peut pas, ça serait ridicule. Il faudra acheter un magnétophone, enregistrer, puis ressortir, mais ça n'aurait plus la même valeur. On ne peut pas calculer la valeur d'un mot. Un père qui dit à son fils, tu es mon fils, à sa fille, tu es ma fille, et pareil pour la mère, quelque chose de tellement, qui a tellement de valeur et qui se perd tellement aujourd'hui. Combien de personnes n'ont plus de père, n'ont plus de mère pour dire, je t'aime, tu es mon fils, tu es ma fille. N'avons-nous pas besoin de savoir qui nous sommes en grandissant? Et beaucoup de personnes sont fragilisées dans leur personne, dans leur personnalité, dans leur fond intérieur, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Je suis le père de qui? Je suis la mère de qui? Demandez à un orphelin. Vous allez voir si ça ne l'a pas travaillé à un moment ou à un autre. Vous comprenez? Ce besoin de chercher l'identité d'un père, d'une fille. J'ai une cousine qu'on a accueillie à la maison. Elle connaissait très bien sa mère, elle croyait connaître son père, mais son père l'avait abandonnée toute petite, avait abandonné sa mère lorsqu'elle était enceinte, et elle n'a jamais connu son père. Et pendant toute son adolescence, elle n'a fait que des bêtises, parce qu'il y avait une rébellion à l'intérieur, elle ne savait pas qui était son père. Et la première chose qu'elle a fait à 18 ans, c'est de faire des recherches, d'aller voir les assistantes sociales, d'aller voir qui elle pouvait pour rechercher qui était son père. Des mots qui ont une valeur. Et Dieu va dire ceci, une voix se fit entendre des cieux ses paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu l'a fait. Il a dit devant tout le monde sur son fils et Jésus l'a entendu, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et juste après il est dit, et de la nuée sortit une voix dans Luc qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-les. Quelle valeur donnez-vous à cette parole? Écoutez-le. Écoutez-le, parce que c'est bien de donner de la valeur aux paroles des hommes, mais quand même, les paroles de Dieu n'ont-elles pas plus de valeur encore? Si elle n'a pas de valeur, la parole de Dieu pour nous, mais que ferons-nous lorsque nous nous serons présentés devant Dieu? On va lui dire, oui, mais bon, écoute, j'avais d'autres choses à m'occuper. Il va dire, oh, mais j'ai parlé. Qu'est-ce que tu as fait de mes paroles? La valeur des mots, et pas n'importe quel mot, ceux de Dieu, ceux de la Bible. Ils ont plus de valeur qu'aucun autre mot, sur la terre. Quatrième valeur, la valeur d'un geste. Tiens, une main sur une épaule. Ça vous fait du bien ? Quand quelqu'un, par sympathie ou pour vous encourager, avant que vous alliez dans un moment difficile, il met sa main sur votre épaule et dit « Je pense à toi, je prie pour toi ». Une main sur une épaule, quelque chose qui est là comme un geste d'affection. Moïse a levé la main devant la mer. Et dans sa main, il y avait un bâton. Et il a levé la main. Un geste. Est-ce que c'est dans ce geste qu'il y avait un pouvoir ? C'est pareil, il ne faut pas être superstitieux. On va tous lever la main pour être sauvés là. Hop, non. Moïse, lui, il a étendu la main devant la mer parce que Dieu lui disait. Et cette obéissance qui l'a conduit à faire ce geste puisque Dieu le lui demandait, a permis à toute une nation, des centaines de milliers de personnes, de pouvoir être sauvées. Car s'il ne l'avait pas fait, il y aurait eu désobéissance. Dieu aurait peut-être dû trouver quelqu'un d'autre, mais en tout cas un geste qui a quand même une certaine importance. Et dans sa main, il n'avait pas n'importe quoi. Dans sa main, il avait un bâton, une verge, et il l'a levé. Quelle valeur a l'importance du témoignage dans votre vie ? Le témoignage de la croix, comme une bannière, comme un drapeau que je veux hisser devant moi, qui va animer tous les gestes de ma vie d'une certaine manière que les gens puissent comprendre que je connais quelqu'un de différent. Quelle valeur j'apporte au geste que je porte dans ma vie, que je pose dans ma vie, le geste que je pose sur mes enfants dans l'éducation, le geste que je pose sur mon épouse ou sur mon époux, le geste que je pose lorsque je vais rencontrer les gens, une main serrée, lorsque j'accueille quelqu'un qui est peut-être nouveau dans l'église, juste une main serrée, bonjour, vous êtes nouveau, soyez la bienvenue ou soyez le bienvenu. Un geste qui peut paraître anodin, mais qui a une valeur parce qu'il représente ce que Dieu a fait pour nous. Il a tendu sa main vers nous pour nous tirer de nos péchés et pour nous sauver. Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Le Fils de Dieu, Jésus, qui est venu sur la terre. Est-ce que nous reconnaissons que dans nos gestes, nous pouvons rendre gloire à Dieu et être un témoin ? Oui, les paroles, comment je parle, mais aussi comment j'agis. Non pas pour faire semblant, non pas pour faire ce que la religion me demande, par devoir, mais par cœur. La foi qui est agissante par l'amour, c'est ça qui a de la valeur. Le prix d'un enfant. Quelle valeur a le prix d'un enfant ? Dans la parole de Dieu, il y a l'exemple du fils prodigue. Son père voit son fils revenir, il l'accueille même s'il sent mauvais, même si ses habits sont en haillons, même si son fils l'a un peu trahi puisqu'il est parti loin, il a préféré gaspiller tout l'héritage. Le père est là et il accueille son fils dans ses bras. Quelle valeur ont vos enfants ? Dans la parole de Dieu, il y a encore un autre exemple, deux femmes qui viennent vers Salomon. Et il y avait cette histoire, il y a une des deux femmes qui avait perdu son enfant, qui venait d'accoucher, elle a perdu son enfant parce qu'elle s'est endormie dessus, elle l'a étouffé. Elle a piqué l'enfant d'une autre, et elle a pris l'enfant mort pour lui donner, elle a inversé. Et l'autre qui s'en rend compte, elle dit « c'est pas moi qui l'ai tué ». Elle va vers Salomon défendre sa cause. Et Salomon, ce sage, va dire « voilà ce qu'on va faire, puisqu'on ne peut pas deviner ». On ne peut pas deviner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper l'enfant en deux. Et on va donner la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. Vous auriez fait ça, vous ? Non. Salomon n'était pas fou, hein. Il savait pourquoi il disait ça. Parce que la vraie maman, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit non, non. C'est pas grave, donne-lui. Pourquoi ? Parce que ça a de la valeur, un fils. Ça a de la valeur, une fille. Elle a préféré perdre ce qui lui était plus cher. Le confier à quelqu'un, même, tout ça, plutôt que de le voir mourir. Ça a dû être une scène atroce. Sur le coup, mais qu'est-ce qui se passe ? Les gens n'ont pas dû comprendre, parce que quand le roi parlait, on écoutait. Et on faisait de suite la chose. Et je suis sûr que les serviteurs, ils allaient obéir. Il en allait de leur vie. C'était quand même quelque chose de sérieux. Et cette femme dit, non, 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 je le donne. Et Salomon dit, voilà, maintenant la mère, c'est celle qui était prête à l'abandonner. Et voici, l'autre, vous la prenez et vous la punissez pour son acte. La valeur d'un enfant, le prix d'un enfant. Que donneriez-vous pour vos enfants ? Quelle valeur accorderiez-vous ou donneriez-vous à vos enfants ? C'est quelque chose de cher, un enfant. Ça nous prend au cœur. Pour aucun de mes trois, même si j'en ai trois, bientôt quatre, j'en donnerai pas un d'enfant. Et je ne veux pas en perdre un seul. Qu'êtes-vous prêt à faire pour que vos enfants aient toutes les chances de se convertir ? Voilà le sens de ma question. Si vos enfants ont de la valeur pour vous, qu'êtes-vous prêt à faire pour eux ? Afin de leur donner toutes les chances de se convertir. Je dis ça parce qu'on ne convertit personne. Chaque personne est responsable et choisit devant Dieu de l'accepter ou de le refuser. Chacun. Et je ne peux pas convertir mes enfants. Je n'ai même pas le droit de le faire puisque Dieu ne se le permettait pas. Chaque enfant doit décider pour soi-même. Par contre, je peux faire tout mon possible pour qu'il ait les meilleures chances de le faire. Le meilleur exemple, chance c'est peut-être pas le bon mot, mais le meilleur exemple, le plus d'encouragement. Est-ce que je suis prêt à prier de tout mon cœur, régulièrement, pour que Dieu garde mes enfants de tout danger, parce que je ne suis pas partout avec eux, et je ne suis pas dans leur cœur, Dieu connaît leur cœur. Est-ce que je suis prêt à jeûner pour mes enfants? Non pas pour mériter, mais juste parce qu'il y a un combat spirituel. On a chanté « Dieu a une armée », ce n'est pas qu'on est tous des soldats et qu'on va tuer tout le monde, ou se battre les uns les autres. C'est quoi notre arme? La parole de Dieu, et la prière, et l'amour. Je crois que l'amour est une grande arme. Et qu'est-ce qu'on est prêt à donner ou à faire pour que nos enfants puissent comprendre que le Seigneur est merveilleux, que le Seigneur les a tant aimés, qu'il a donné sa vie, afin que malgré tous leurs péchés, ils puissent être sauvés, si ils demandent pardon, si ils crient au Seigneur pour être sauvés. Et à l'instant, le Seigneur le fera. Je termine avec ceci, la valeur d'une vie. Et c'est là que je voulais en venir. Dans mon cœur, depuis mardi soir, j'ai cette pensée qui est là. Quelle valeur donnes-tu à ta vie? Et vraiment, dans mon cœur, ce qui était là, c'était « Pourquoi ne t'aimes-tu pas ? Pourquoi te regardes-tu avec si peu de valeur ? Pourquoi te rabaisses-tu ? Pourquoi te diminues-tu ? Pourquoi veux-tu te suicider ? Pourquoi veux-tu arrêter de persévérer dans la foi ? Pourquoi veux-tu baisser les bras ? Sais-tu que Jésus t'aime ? Sais-tu que tu as de la valeur aux yeux de Dieu ? Quelle valeur tu donnes à ta propre vie ? Ma vie ne vaut rien, quelqu'un dira peut-être. Et lui, le Seigneur, il nous dit qu'il nous aime. J'ai dit qu'il y avait trois choses pour évaluer la valeur de quelqu'un. Je ne suis pas apte à savoir la valeur que je vaux. Pourquoi ? Eh bien, parce que je ne sais pas ce qu'il faut pour créer un homme, matériellement parlant. Je ne sais pas d'où vient le souffle de vie de Dieu, mais comment est-ce qu'il est communiqué physiquement, matériellement ? Comment la vie commence à venir dans le ventre d'une maman, que les cellules commencent à se multiplier, pourquoi telle cellule va faire un cœur, et pourquoi telle cellule va faire un poumon, et celui-là va faire un nez, et celle-là, etc. Qui dit aux cellules ce qu'elles doivent faire? Et si le même embryon, je le coupe en deux, ça va faire deux personnes. On le fait actuellement. Sur des animaux, bien sûr. Mais pourtant, je croyais que dans tel morceau de cellule, il y avait le cœur, et tel autre, il y avait le bras. Eh ben non, si on sépare, ça fait comme une étoile de mer, ça se multiplie. Qui fait ça? Qui est apte à évaluer déjà la valeur brute d'un homme? Un scientifique s'est amusé à évaluer, il a dit que pour créer un être humain matériellement parlant, il fallait à peu près 12 euros de matériaux. Ça fait pas cher, hein? Ça fait pas cher le matériau. Parce qu'en soi, de l'argile, de l'eau, il y a des choses, voilà. Mais la vie qui est dedans, qui peut l'évaluer, valeur brute? Il n'y a que Dieu. Valeur à dire d'expert. Lui, il sait d'où on vient non seulement, et où il veut nous emmener, et où on va peut-être, malheureusement, parce qu'on ne veut pas de lui. Lui, c'est toutes ces choses, valeur d'expert. Qui est plus expert que Dieu pour savoir la valeur que j'ai? Personne. Alors, ce n'est pas à moi de dire ce que je suis, ce que je vaux. C'est à moi de me présenter devant Dieu et à le laisser dire ce qu'il pense de moi. Peut-être qu'il va me dire, tu sais, tu as de la valeur, mais il y a ça, 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 tu devrais l'abandonner. Peut-être qu'il va me dire, tu sais, tu as de la valeur et je voudrais que tu fasses ceci, cela. Voilà. Il peut nous dire toutes sortes de choses, mais qui est le plus expert, le plus à même d'évaluer la valeur de ma vie? Et puis j'ai dit le troisième critère, c'était qu'est-ce que je suis prêt à faire et quel prix je suis prêt à mettre? Quel regard je porte sur ma vie, sur la vie de quelqu'un? C'est ça qui va donner sa valeur. À quel prix je suis prêt à payer pour sauver, pour acheter, pour faire ce qu'il faut pour cette vie ou cette autre vie? Et là, le seul qui puisse racheter la vie d'un homme, ça a été Jésus-Christ. Par son sang versé. Le prix, c'est le Père qui l'a payé en donnant son Fils. C'est le Fils qui l'a payé en versant son sang sur le bois de la croix. Et quelqu'un ce matin, je suis sûr que c'est pour quelqu'un, peut-être plusieurs, qui se dévalorise tout le temps, et j'aimerais vous rappeler que le mieux à même de dire votre valeur, c'est Dieu lui-même. Et quand il vous regarde, oui, il voit quelqu'un avec des défauts, comme moi. Oui, il voit quelqu'un avec des faiblesses. Oui, il voit quelqu'un qui a loupé peut-être certaines choses desquelles Dieu voulait le préserver, qui a loupé certains projets de Dieu dans lesquels Dieu voulait l'amener, pourquoi Dieu l'avait fait, qui est passé à côté de tant de merveilles, de tant de grâces, de tant de paix, de tant de joie et tant de choses que Dieu voulait répandre dans sa vie. Peut-être que c'est le cas, il voit ça, puisque Dieu voit tout et connaît tout parfaitement. Mais ce qu'il voit au-delà de ça, c'est une âme qu'il a créée et qu'il veut pour lui, et dont il a payé le prix cher, celui de la vie de son propre fils. J'ai précédé par la vie d'un enfant. La vie d'un fils unique, Jésus-Christ, c'est le prix que Dieu a accepté de payer pour vous et pour moi. Je ne sais pas ce que ça fait dans votre cœur. Peut-être vous dites c'est que des bêtises, eh bien c'est bien dommage, car vous vous privez d'un amour tellement grand. Peut-être que vous dites, mais c'est pas possible, j'ai tellement péché, j'ai tellement fauté, je suis tellement mauvaise, j'ai jamais, d'ailleurs jamais prié de ma vie, j'ai jamais lu la Bible, et pourtant Dieu m'aimerait quand même, c'est pas possible. Je vous dis que oui, car Dieu a tant aimé le monde entier. Il est écrit « Dieu est amour ». C'est là son désir même de manifester son amour à tous les hommes, et à cause du péché, il en est privé. Il ne peut pas manifester comme il le voudrait. L'amour, il l'a manifesté à la croix, mais il voudrait le manifester encore dans chaque instant de notre vie, ne serait-ce que par sa présence qui rassure et qui encourage. Et à chacun d'entre nous de dire ce matin, Seigneur, c'est vrai peut-être que je me suis dévalorisé, c'est vrai peut-être pour moi ma vie, elle ne vaut pas grand-chose, c'est vrai que je suis désespéré, c'est vrai que j'ai failli abandonner, c'est vrai que je suis au bout du rouleau, c'est vrai que dans mon foyer, je n'ai plus d'espoir, la vie de mon mari n'a plus de valeur pour moi, quelqu'un pourrait même dire que je l'aime plus, je ne l'aime pas. Combien je suis triste, j'ai des images de personnes que j'ai rencontrées en tant que pasteur qui sont venues nous voir, on était à plusieurs, et cette femme, son mari pleurait, lui apportait des fleurs tout le temps, il faisait tout ce qu'il pouvait, il avait lui-même négligé sa femme, il n'était jamais allé avec une autre, il n'avait jamais péché dans un domaine particulier, mais ce qu'il avait fait, c'est qu'il l'avait négligé un temps pour l'église. Il avait servi Dieu comme il le pensait bon, tellement qu'il n'était plus à la maison. Et sa femme, au bout d'un moment, lui a dit, écoute, tu es tout le temps en France, partout, construire des églises parce que tu es architecte, et tu n'es jamais à la maison alors que je te demande de venir prendre soin de moi. Ça fait des mois et des mois que je te le demande. Aujourd'hui, c'est fini. Et ce mari a tout fait pour récupérer sa femme, tout fait pour demander, il a demandé pardon, il s'est vraiment corrigé, il a réalisé ce qu'il a fait, dommage qu'il a fallu en arriver là. Mais juste après, quelle tristesse d'arriver dans le bureau et d'entendre cette femme dire « Je veux divorcer, mais sœur, cette personne, votre mari, a demandé pardon, laissez-lui une chance. » Non, c'est comme ça, mais pourquoi? Parce que c'est terminé, je ne l'aime plus. Je ne peux pas fabriquer des sentiments, je ne l'aime plus. Quel dommage de baisser les bras comme ça. Parce que je suis sûr que dans la grâce de Dieu, Dieu peut donner à nouveau des choses qui ne sont plus. Il est le créateur de la matière. Il est le créateur de toutes choses. Ne peut-il pas être créateur de sentiments, d'affection, de pardon, l'un pour l'autre? Je crois aussi que Dieu peut le faire. Je ne viendrai pas condamner, par contre, la personne qui a subi un adultère dans son foyer et qui n'arrive pas à passer dessus. Je ne veux pas critiquer. Je ne fais aucune critique ce matin. Je veux simplement dire, il y a de l'espoir. Il y a de la valeur dans un mariage. Il y a de la valeur dans une vie. Il y a de la valeur dans ta vie. Et peut-être quelqu'un voulait se suicider. Dernièrement, j'allais dans une église. Tout bêtement, je parlais du suicide. Et à la fin, quelqu'un en pleurs vient pour qu'on prie pour elle. Et elle me dit, je voulais me supprimer la vie, je suis venu. Est-ce que ce n'est pas la preuve que Dieu avait mis de la valeur sur sa vie? Bien sûr. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous aime, il nous a tant aimés qu'il a donné son propre fils, son fils unique, afin que quiconque croit. C'est là l'enjeu, c'est là le vrai combat. Continuer à croire malgré toutes les difficultés, malgré ce que je vois avec mes yeux, malgré les défaites, malgré les échecs, malgré mes péchés quelquefois. Continuer à croire qu'il y a un vrai pardon auprès de Dieu, une restauration, une délivrance du péché et une puissance pour marcher dans ses voies comme il le demande, tout simplement. Continuer à croire la Bible, la parole de Dieu, c'est tout. Continuer à faire confiance et la lire tout le temps, pour trouver ce dont j'ai besoin à chaque instant. On va incliner nos têtes. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. J'ai un dernier chant que je voulais qu'on chante, qui dit « Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur à mes yeux, mais pour toi, perle de prix. Savons-nous que nous sommes de valeur aux yeux de Dieu ?» Et ce matin, pendant ce chant, peut-être quelqu'un ne le connaît pas, ne pourra pas chanter, ou quelqu'un n'aura pas le cœur à le chanter. Mais j'aimerais que vous écoutiez le Saint-Esprit et le Seigneur vous dire, dans votre cœur, en fermant les yeux peut-être à votre place, mais vous dire « Je t'aime ». N'abandonne pas. Ne te supprime pas. Ne baisse pas les bras. Continue, persévère. T'as péché, c'est grave le péché, oui, mais il y a un pardon encore aujourd'hui. Et si le péché a abondé, moi je veux faire surabonder la grâce qu'il y a. Du moment que t'es toujours prêt à croire, du moment que t'es toujours prêt à te repentir, à demander pardon, à abandonner, et je te donnerai la force d'abandonner ces choses, je te donnerai la force d'être délivré. Et tu vas continuer, et le Seigneur va t'aider. Et ce matin, cette réunion, ce n'était pas juste pour évaluer la valeur, avoir des chiffres comme ça, c'est qu'on termine. C'était là le point plus important. Qu'on termine, oui, on donne de la valeur aux choses, mais notre vie a de la valeur aux yeux et au cœur de Dieu. Amen.